Suivez Priorité Santé avec Suno Assurance, qui a le bon profil pour vous accompagner dans les moments difficiles.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est une émission sous le signe de l'apaisement, de l'échange et de la tendresse que nous vous proposons puisque nous allons parler de la caresse. Alors, quel rapport entre la santé, le soin et ce geste très singulier, cet effleurement, ce frôlement qui peut rappeler l'enfance ou le rapport amoureux? Nous allons le voir, l'intention de la caresse détermine la nature de ce contact. Nous allons donc tenter de cerner, de définir cette caresse dans le cadre du soin, alors que précisément à la faveur de la pandémie et de ses gestes barrières, le contact physique a été quasi interdit. Comprendre pourquoi il faut réhabiliter la caresse. Le temps du contact dans la relation soignant-patient, en particulier quand ce dernier se trouve en situation de grande vulnérabilité. Contact proscrit par temps de Covid, caresse prescrite. Oppose notre invité du jour. La caresse qui console, car la santé, ce sont bien sûr des organes qui fonctionnent, mais aussi un bien-être général. La caresse qui rassure, car pour se soigner, il faut accepter de baisser la garde, se sentir en confiance. La caresse qui apaise, parce que la douceur du contact calme, limite le stress. La caresse parfois qui soigne, qui ravive des souvenirs, qui calme la douleur. Éloge de la caresse aujourd'hui dans Priorité Santé, la caresse éthique comme composante de l'humanisme médical qui donne sa place aux patients et surtout peut-être le temps aux soignants. Évidemment, une caresse qui se distingue de l'érotisme, respectueuse, contact qui peut redonner un élan vital, comme vous avez pu le constater dans votre pratique. Docteur Véronique Lefèvre-Desnouettes, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre de la personne âgée au centre hospitalier Émile Roux à Limeil-Brévannes dans le Val-de-Marne. Et votre livre s'intitule « La force de la caresse, prendre soin des plus fragiles avec le cœur ». Il est publié aux éditions du Rocher. Le toucher dans le soin, quelle résonance ce sujet a-t-il dans un pays comme le Niger? Nous donnerons la parole au docteur Abdoulkader Andia, interniste gériatre au service de médecine interne à l'hôpital général de référence de Niamey. Et puis en fin d'émission, on va retrouver la chronique sport du docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport à Paris.
Priorité santé sur RFI.
Alors c'est donc un livre en forme d'éloge de la caresse que vous signez, ça aurait pu être le sous-titre également, docteur Véronique Lefèvre-Desnouettes, avec à votre actif, on peut le dire sans pudeur, une longue expérience, des dizaines d'années.
Oui, plus de 35 ans, voilà. Comme seul psychiatre pour les près de 800 lits et places de personnes très âgées, polypathologiques et qui ont des troubles cognitifs.
Alors, décennies d'exercice de la psychiatrie auprès de cette patientèle, on va dire particulière, ces personnes âgées, voire très âgées. Pourquoi est-ce que c'est si important à vos yeux aujourd'hui là, et peut-être précisément maintenant, nécessaire, voire même indispensable d'aborder cette question de la caresse dans le soin?
Parce que nous sommes trop sur des protocoles, trop rigidifiés. Nous enseignons à nos jeunes médecins, à nos jeunes infirmières, à nos jeunes aides-soignants une distance. Le respect, c'est parfait, mais pas la distance et pas la distance physique dans le soin. Nous avons, avec l'épidémie de Covid, porté des gants, porté des masques, porté des surblouses. Nous nous sommes été comme des cosmonautes dans les chambres de nos malades. Il est temps de réintroduire de l'humain. Car ce qui nous caractérise par rapport aux animaux, c'est que nous n'avons pas de plumes, nous n'avons pas de poils, nous naissons nus. Et il nous faut bien plus que le gîte et le couvert pour vivre, il nous faut de l'amour. Et notre amour, nous le transmettons avec la main, qui est un outil extraordinaire. Pourquoi se passer de la main dans le soin? C'est la question que je pose et que je travaille à travers de nombreux exemples cliniques qui étayent ma pratique.
Et pourtant, vous l'avez dit, il y a eu ces préconisations, voire même ces lois. Le masque, c'était obligatoire. La terminologie officielle préventive, geste barrière. On a entendu même... Après, on est passé plutôt à distanciation physique. Au début, c'était social. C'est quasiment au niveau même de la parole. Autrement dit, docteur Lefèvre-Desnouettes, bannissement du toucher, du contact, ça veut dire que pendant... Ça a dû être particulièrement dur pour vous.
Ça a été épouvantable, non seulement pour nous, mais pour nos malades qui se sont laissés mourir de chagrin. Si vous n'avez pas un autre humain en face de quelqu'un qui va mal, eh bien, elle se laisse mourir de chagrin. C'est vrai pour les bébés, hein, avec l'hospitalisme que Winnicott a très bien montré, où le bébé se balance et se laisse mourir. Nous avons besoin de l'autre pour vivre. Et au bout d'un mois de ces injonctions hygiénistes, hein, terribles, de cette loi, vous l'avez rappelé...
Même si on le dit quand même, parce que certains peuvent dire qu'est-ce qu'elle est en train de dire, sur le fond, vous étiez d'accord la dangerosité extrême du virus. Là-dessus, il n'y a pas le moindre doute.
Il n'y a aucun doute. Voilà. Seulement, nous avions des peurs croisées de transmettre le virus et de recevoir
le
virus.
La méconnaissance aussi.
Absolument. Alors, on a fait des progrès énormes. Il y a le vaccin, il y a l'approchabilité à l'autre qui a changé. Bien entendu, nos pratiques ont changé. Mais il faut se replacer dans ce contexte de blackout, interdiction des visites, des injonctions qui venaient tous les jours. Nous sommes en guerre. Alors, on ne peut pas être en guerre quand on est
et
dans
pas
le
dans un hôpital.
Non.
Pas dans un hôpital. En tout cas, on a une auditrice, Lémina de Nouakchott, en Mauritanie. Elle nous a écrit un message, une petite confession qui est quand même assez intéressante pour nous raconter comment ça s'est passé pour elle dans son corps, on va dire dans son esprit, dans son âme, avec cette période de gestes barrières. Elle qui vivait donc à ce moment-là en France, elle explique « Voilà, je peux attester avoir réellement ressenti psychologiquement l'impact du manque de contact physique pendant ce premier confinement. Elle était étudiante en France, en colocation avec une cousine, on va dire peut-être heureusement en colocation. Je lui ai fait la remarque. Un jour, je lui ai dit, sur le ton de l'humour, « Je suis en manque de contact physique. J'ai toujours été habituée à être cajolée par ma maman. Enfant, elle me caressait, elle me grattait le dos jusqu'à ce que je m'endorme. On a l'impression de voir un petit chat. Aujourd'hui, à 26 ans, je lui demande toujours de le faire. Parfois même à mon entourage, à mes sœurs, mes cousines, mes copines. Je ressens toujours à ce moment-là beaucoup de plaisir. » Comme si j'étais sur un nuage, je ressens ces fameuses hormones du bonheur se dégager de mon cerveau.
Mais elle a tout très bien dit, très bien décrit et très bien résumé. Effectivement, lorsqu'on caresse, notre cerveau est inondé d'ocytocine, c'est-à-dire l'hormone de l'attachement, du plaisir, de la dopamine. Notre tension diminue artérielle, notre pouls se ralentit et on se sent nettement mieux.
On se sent mieux, engagement personnel, on l'entend là, ocytocine, tout ça, c'est de la science, hein, c'est vraiment de la médecine. Ça s'appuie sur des faits éprouvés. Justement, il y a des chercheurs, des études scientifiques qui se sont penchés sur les bénéfices de la caresse pour en évaluer l'intérêt d'un point de vue médical. Qu'est-ce qu'il en ressort ?
Il en ressort que c'est tout à fait positif. Et depuis les années 2000-2010, les études scientifiques se sont d'abord penchées sur les rats. Puis on est passé au modèle animal.
Merci, oui.
Parce que nous ne sommes pas des rats.
Non.
Et nous avons besoin de caresses avec cette main qui est un outil formidable, hein, qui peut à la fois attraper, griffer, mais qui peut caresser et donner de la douceur avec la paume ou avec le dos de la main. Et bien sûr, toutes les études sont extrêmement positives et concluantes.
Alors, si on situe votre propos, docteur Véronique Lefebvre-Desnouettes, la liste des bienfaits de la caresse, on parlerait de quoi ? Du stress, la pression, qu'est-ce qu'il y a exactement ?
Alors, il y a une action qui est tout à fait scientifiquement prouvée sur la baisse de l'axe du cortisol, qui est l'hormone du stress. Donc, notre pouls se ralentit, notre tension diminue. Vous savez, dans les soins, eh bien, on est vraiment très stressé par l'attente, par le fait de j'ai mal et on ne s'occupe pas de moi.
Les corps sont éprouvés.
Les corps sont éprouvés, mais la psyché aussi est éprouvée.
Bien sûr.
Et donc, cette hormone de la dopamine, du plaisir, de l'attachement, vous avez un double plaisir à la fois corporel et à la fois psychique grâce à la caresse.
Et on va baliser le terrain parce que ce n'est pas toujours évident. On doit bien définir quand même le champ de la caresse dont il est question dans cette émission Priorité Santé. Le contexte est particulier, c'est l'hôpital, c'est la consultation, c'est un suivi médical. On va le dire trivialement, ce n'est pas un lit, ce n'est pas un berceau, ce n'est pas un câlin familial. Comment ce geste qui touche à l'intime, au sens, peut-il être pratiqué dans un cadre professionnel, un cadre médical qu'on imagine plutôt davantage aseptisé ?
Eh bien, justement, il faut réintroduire de l'humain. Alors, chez les tout-petits, ce n'est pas compliqué. Hein, c'est très important de pouvoir les bercer, de pouvoir les cajoler, même quand on est soignant, sage-femme, aide-soignante ou infirmière. Mais chez les personnes âgées, on n'a pas envie de toucher ces vieux auxquels on ne veut pas ressembler. Donc, il faut réintroduire ce geste, mais ne pas se tromper des territoires de la caresse. Il ne s'agit pas d'amener de l'érotisme, de la sensibilité, de la sensorialité qui pourrait glisser vers ce versant-là.
Mais immédiatement, l'idée me vient, certaines personnes âgées qui ne sont pas forcément totalement... qui ne maîtrisent pas totalement tous leurs moyens, leur consentement, comment on fait pour savoir finalement si cette personne simplement on a envie.
Eh bien, vous savez très vite, vous voyez très vite. Déjà, si je ne propose rien et que j'ai affaire à une personne soit dépressive, soit suicidaire, soit qui veut, qui est dans son monde délirant ou son monde de malade d'Alzheimer, il ne se passera rien.
Vous verbalisez avant de toucher ?
Oui, bien sûr. Je verbalise et je m'assure d'un assentiment, c'est-à-dire d'une non-opposition systématique à ce que je vais proposer. Et j'approche d'abord... Je mets ma main sur la main, sur le dos de la main, puis sur l'avant-bras, où je touche le front, où je caresse la joue du... Et si je vois qu'il y a un mouvement de retrait, eh bien, je n'insiste pas, je reviendrai, je proposerai autre chose pour le réveiller. Mais je n'ai jamais eu de mouvement de retrait. Vous avez des gens qui sont peu tactiles, mais qui acceptent quand même. C'est une mode d'entrée avec l'autre qui est vulnérabilisée par la maladie.
Les patients disent oui. Qu'est-ce qu'en dit le monde hospitalier ? Est-ce que c'est tabou ?
C'est très tabou parce qu'on a très peur. On a très peur justement des deux versants de la caresse, qui est à la fois un geste de tendresse. Ah, la tendresse dans le soin, surtout pas. Mais si, surtout, notamment avec les personnes très âgées qui ont des troubles cognitifs.
Et vous disiez tout à l'heure, excusez-moi, à l'enseignement, la tendresse dans le soin, surtout pas. C'est vraiment dit comme ça ?
Ah oui, c'est dit dans le respect, la distance, le protocole, la procédure. On enseigne ça, la blouse blanche. On est sur un petit théâtre où on a son costume et on a ses distanciations physiques qu'on connaît bien, sauf quand on fait des gestes, par exemple une toilette, même une toilette intime, c'est ce qui pose problème. Mais on peut caresser avec une toilette intime. Il suffit de mettre le gant de toilette, la pomme de douche dans le gant de toilette et de dire ce qu'on va faire, de l'accompagner. Je vais commencer par la plante du pied, je vais remonter la jambe, je vais vous faire, vous nettoyer.
Se laver, c'est aussi une forme de caresse.
Absolument, ça peut le devenir.
Et vous distinguez bien la caresse du massage, là on est encore dans la définition. On va dire, ok, bah oui, elle nous parle de la caresse, mais finalement c'est ce que font les kinés depuis la nuit des temps. Non, pas du tout, ça n'a rien à voir.
Le kiné est un geste technique. D'ailleurs, tout ce qui est massage, tous ces massages, c'est du kiné. Hein. Kinésithérapie, c'est le mouvement, c'est le muscle, c'est le corps. Il ne s'adresse pas du tout à la psyché. La caresse augmente l'être à l'autre, augmente la sensorialité, l'humanité d'un être à un autre. Je ne dis pas que les kinés ne sont pas humains, mais ils ont leurs procédures, leurs protocoles et ils ne vont jamais dévier. C'est-à-dire qu'on va s'occuper d'une jambe, d'une partie d'un corps et pas cette prise en charge holistique que je propose.
Alors, est-ce que la question de la pertinence de la caresse va se poser en fonction des spécialités ? Parce que c'est vrai que dans un service, par exemple, de néonatologie avec des tout-petits, on le voit avec le contact, le toucher, le corps à corps. En pédiatrie, caresser un tout petit bébé, d'ailleurs, ça donne très envie de caresser les bébés. Mais effleurer, vous disiez tout à l'heure, on n'a pas forcément envie de les toucher, ces vieux, même si la peau d'une personne âgée est souvent très douce. Ça peut sembler un petit peu plus compliqué. Pourtant, c'est bien votre domaine, hein ? Les vieux, les très vieux, effleurement, frôlement, douceur. Et vous l'avez vu, quand vous entrez en contact avec ces personnes âgées, on fait des découvertes ?
On fait des découvertes qu'elles ne sont pas si démentes que ça, qu'elles ont des choses à dire, que la parole se réveille, que les souvenirs émotionnels remontent à la surface de la peau. Hein, je pense à Raymond, par exemple, qui est très âgé, qui ne fait que taper, qui hurle, qui est complètement dément, comme on va dire. Et puis, les soignants en ont peur. Et j'ai l'idée de demander, mais il faisait quoi comme métier ? Ben, Raymond était menuisier. Donc, j'ai dit, on va apporter des substances différentes, des touchers différents, des essences de bois différentes, l'odeur de la cire. Immédiatement, il n'est plus devenu Raymond qui faisait peur à tout le monde, mais Raymond, le chef d'atelier. Il avait des choses à nous dire et il s'est apaisé.
Vous lui avez rendu son identité ?
Absolument, et sa dignité d'être avec nous.
Une illustration à présent dans Priorité Santé, des témoignages.
Priorité Santé sur RFI.
Et nous donnons la parole à plusieurs personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Notre reporter Charlie Dupiot s'est rendu au centre Alzheimer Les Parentèles dans le 9e arrondissement à Paris. Autour de son micro, plusieurs résidents qui sont réunis, plutôt intéressés par le thème de la caresse. Parmi eux, Jacqueline, 95 ans, Nancy, 93 ans, François, 83, Fouida, 70. Et jamais très loin, il y a un petit lapin. Il s'appelle Cannelle et il est décrit comme l'être le plus caressé ici. Les patients se passent Cannelle de main en main.
Cannelle, bonjour Cannelle. Oh ben dis donc, t'es drôlement beau. T'as des moustaches. T'es un petit lapin. Oh là là, ça fait du bien. Oh, puis on te tient bien. Pauvre petite bête.
Tu veux la prendre dans tes bras ?
Je voudrais bien.
Tiens, tiens, je te la donne.
Si je vous dis contact physique, qu'est-ce que ça vous inspire ? Qu'est-ce que ça représente pour vous ?
Si j'ai un chéri, le contact sera avec mon chéri, mon enfant, parce que j'ai une fille, mes nièces et neveux, et des amis que j'adore, je les prends dans mes bras aussi.
Est-ce que quand ils ne sont pas là, est-ce que ça vous manque le contact physique avec eux ?
Ça me manque de les avoir dans mes bras et d'être aussi dans leurs bras. Ce qui me manque le plus, c'est ma fille et de la prendre dans mes bras.
Et quand elle vient, c'est câlin.
Oh, plein de câlins. Je dis, arrête, maman. Je dis, mais attends, j'en ai besoin. Elle me dit, ça, c'est toi qui le dis. Je lui dis, si je le dis, c'est que c'est vrai. Elle me dit, bon, d'accord, allez, vas-y, continue. Et on se marre toutes les deux. C'est ça qui me manque le plus, le contact. Ça nous fait du bien.
Est-ce que ça vous arrive d'avoir des contacts physiques justement avec le personnel soignant ici ?
Ah bah bien sûr, parce qu'ils sont là pour s'occuper de nous. Puis on est quand même contente quand ils nous font une bise quand ils arrivent le matin, ou quand ils nous parlent, ou quand ils nous tiennent la main. Mais quand on tient la main de quelqu'un, quelquefois ça rassure surtout.
Mais c'est vrai qu'au début, quand je suis arrivée, j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire ici ? J'ai pas ma famille, j'ai pas ma fille. Que vais-je faire ? Et petit à petit, en étant en contact avec les autres personnes, ça m'a reboostée et je me sens très bien.
Est-ce que parfois vous vous faites des câlins entre vous, des embrassades, des bises ?
Oui. Comme ça. Je parle pour moi, hein. Ça me prend dans la tête que j'ai envie de prendre quelqu'un dans mes bras et de l'embrasser. Et c'est ce que je fais.
Parce que
j'ai de la sympathie pour cette personne. Qu'elle m'est agréable. Puis après, ne vous inquiétez pas, c'est une envie.
Et en général, comment les résidentes, les résidents réagissent quand vous faites ça ?
Il y en a beaucoup qui se marrent. Et d'autres, ça leur fait très plaisir.
Oui, mais enfin, ne fais pas des câlins avec tout le monde. Hein. Faut que ça soit vrai, qu'on le pense vraiment. C'est pas simplement se faire un gros bisou. Non, il faut que qu'on ressente quelque chose de bon.
Qu'est-ce que ça vous apporte, les contacts physiques, les embrassades, les bisous ?
Ça nous rapporte de la force. On est heureux et je me sens mieux dans ma tête.
Mais il faut se toucher, se comprendre, avoir la température de l'autre, les gestes. Et le regard qui va avec.
Vous avez des enfants ?
3. Mais je suis grand-mère, mais pas arrière-grand-mère encore.
Et alors, vos enfants, est-ce qu'ils viennent vous voir ici ? Et vos petits-enfants ?
Mais comme il y a des techniques modernes pour se parler tous les jours, parce qu'ils voyagent beaucoup, ils sont souvent à l'autre bout du monde, moi pas.
Quand ils habitent trop loin de vous, je sais, parce que les miens habitent en Amérique, alors ça... On ne peut pas aller les voir toutes les semaines, hein, ils ne peuvent pas venir. Alors c'est très loin. Mais bon, on a l'avantage maintenant, avec le téléphone, avec la vision, on peut se voir. Mais je ne le conseille pas. Parce que c'est trop dur après, quand on éteint, on ne les voit pas. Mais ce n'est pas pareil que quand on les a près de soi, quand même. Non, ce n'est pas du tout pareil, on ne peut pas les toucher, on peut pas les... ça fait une grande différence, je vais vous le dire. Même simplement en leur tenant la main, ça change tout. Mais enfin, on ne peut pas tout avoir. Hein. Quand on les voit comme ça sur un écran, moi je suis déjà contente. Je trouve que j'ai beaucoup de chance. Le peu que je peux avoir, j'accepte et c'est beaucoup.
Docteur Véronique Lefebvre-Desnouettes, on vous retrouve à l'écoute. Votre réaction après ce reportage, on dit ce qu'on a sur le cœur et en tout cas, on l'entend, on a besoin d'étreintes, quel que soit notre âge.
Quel que soit notre âge et surtout quand on est âgé, vous avez entendu ces femmes merveilleuses, elles disent rien que nous prendre la main, ça nous donne de la force. Mmh. Avoir des contacts avec nos enfants, nos petits-enfants qui sont loin par visio ou par téléphone, c'est pas pareil. Mmh. Prendre un enfant par la main, avec la belle chanson, eh bien oui, prendre un vieux par la main, c'est vraiment le minimum que l'on puisse leur offrir.
Et en début de reportage, ce rôle de l'animal, vous le citez d'ailleurs dans votre livre, parce que vous le pratiquiez aussi, cette caresse à l'animal, livre qui est dédié à votre chat, si j'ai bien compris. On l'a même éprouvé, hein, il y a des études sur le potentiel apaisant du contact animal pour des personnes vulnérables.
Ah oui, d'ailleurs, il y en a de plus en plus dans les maisons de retraite, dans ce qu'on appelle les EHPAD aujourd'hui, dans les services de soins de longue durée. Hein, c'est très, très important. Hein. Une statue se laisse caresser. Un animal, pas toujours. Mais le chat, il cherche la caresse. Hein, et quand il n'en veut pas, il n'y va pas. Mais toutes les études montrent qu'on a exactement la même chose que lorsque on se laisse caresser, lorsqu'on caresse un animal. C'est-à-dire que ça va irriguer les mêmes zones du cerveau. Ça a un effet très apaisant. Et dans les structures qui s'occupent de malades d'Alzheimer à des stades évolués, c'est vraiment utilisé comme une thérapie non médicamenteuse, ce qu'on appelle médiée par l'animal de compagnie.
Alors, la caresse, le tactile, il y a les outils, la peau, le toucher, la main. Et puis, d'autres caresses que vous mettez en avant dans votre livre. Vous parlez de la caresse du regard et de la musique. Qu'est-ce que ça veut dire ?
On peut caresser avec tous nos sens. Vous avez des regards qui vous réifient, c'est-à-dire qui vous rendent chose. Des regards méprisants, qui vous rayent de la carte de l'humanité. Mmh. Et parfois, les soignants ont ce regard parfois un peu dur, un peu de rejet. Et les patients me le disent. Hein, vous avez vu, je ne suis plus personne. Alors que lorsque vous caressez d'un regard, tous les enfants le savent, hein, tout de suite, vous tissez un lien de confiance. Donc, le regard, évidemment, la musique peut vous caresser les oreilles, vos cerveaux. Moi, je dis souvent, j'ai besoin de me caresser les neurones après une journée d'hôpital. Donc, j'écoute le concerto en sol de Maurice Ravel que vous avez.
C'est ça, exactement, que j'ai emprunté. Hein. Cité en référence, dans votre livre, vous dites vous agissez sur les sens, sur tous les sens, en particulier quand l'individu perd certaines compétences, certaines capacités. Je vous cite, « Chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer, c'est le sens du toucher qui reste malgré tout le plus préservé jusqu'au dernier souffle. » C'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément.
Oui, c'est pour ça que je veux l'enseigner, je veux le montrer et le démontrer, hein, en m'appuyant sur des études scientifiques. Cette main qui n'est plus caressée, Monterland disait « Les vieux meurent de ne plus être regardés ni touchés. » Oui, si l'on vient avec une main sur une peau qui est ridée, tout de suite, on va sentir la douceur. Et ce peau à peau, dont on connaît les effets bénéfiques chez les tout-petits, notamment les prématurés, il faut pouvoir le réintégrer dans les soins aux personnes très âgées. Alors, on a parlé de la musique, on a parlé du toucher, mais on peut parler d'une bonne odeur qui va vous caresser les naseaux, d'un parfum, on peut parler d'un goût qui va vous caresser le palais. C'est très utile de faire des mets qui ont un bon goût, une bonne odeur dans nos EHPAD.
Docteur Véronique Lefebvre-Desnouettes, on va poursuivre cet échange. Tout de suite, un petit retour dans les années 80, la Caraïbe, la voix de Marie-Josée Allier. Vraiment, vous m'avez beaucoup inspirée avec ce livre, La force de la caresse, le groupe Malavoie, Caresser Wayne, forcément.
Caresser-moi, caresser-moi. caresse-moi, caresse-moi. L'ennui de la qu'a tombé, tombé, dix oiseaux qu'a posé. Les vents maudits chanter, caressez-moi, caressez-moi. L'homme a cagé nuit, la lune l'a café nuit. Cocotier qu'a parlé, caressez-moi, caressez-moi.
Priorité santé sur RFI, la force de la caresse, c'est le titre de ce livre que signe notre invitée, docteur Véronique Lefebvre-Desnouettes aux éditions du Rocher, docteur psychiatre de la personne âgée au centre hospitalier Émile Roux à Limeil-Brévannes. Vous écrivez page 108, je vais me faire votre porte-parole, découvrir la force de la caresse qui redonne un élan vital, une cohésion humaine à ces corps meurtris par des fractures, douleurs, amputations, paralysie aussi à ces personnes dépressives, anxieuses, ou atteinte de la maladie d'Alzheimer dont l'esprit s'égare et le corps défaillant s'échappe dans un autre monde que le nôtre. Commençons par renouer avec le toucher dans les soins donnés aux malades. Vous parlez d'apaisement, de consolation, docteur, de quoi s'agit-il ?
Il s'agit de tout ce qu'un soignant peut et doit apporter pour une prise en charge la plus globale possible, qu'on appelle le care. C'est-à-dire, on ne s'occupe pas que du corps, de la blessure, de la fracture, mais on va s'occuper de la personne qui souffre. On ne va pas la faire disparaître derrière sa maladie, derrière sa plainte, mais on va la prendre en charge de façon tout à fait humaine, globale. Et pour ces personnes très âgées dont je m'occupe, la meilleure façon, c'est de les toucher, de les aborder par le toucher, accrocher leur regard pour qu'une parole puisse se dire, pour qu'un être à l'autre puisse se faire, pour qu'un lien de confiance puisse se tisser. La main est cet outil magnifique qui redonne cette cohésion.
Et justement, ce toucher, il fait partie intégrante de la pratique initiale de la médecine. D'ailleurs, il y a tous ces verbes qui sont liés à l'examen clinique, observer, décrire, palper, toucher la peau du corps d'un malade. Est-ce qu'aujourd'hui, la clinique, finalement, c'est un petit peu laissé de côté et on est plus dans le technique, le verbal et moins justement dans cette approche médicale. C'est vrai, déshabillez-vous madame, je ne sais pas, les réflexes, le toucher, tous ces gestes médicaux initiaux qui sont un petit peu, maintenant on a l'impression un petit peu même dépassés.
Oui, oui, vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, je m'emploie avec les jeunes externes, puisque je travaille à la faculté pour les externes, à leur apprendre à regarder, écouter leurs malades, ne pas les interrompre et les toucher.
Et c'est vraiment un grand savoir-faire de la médecine française parce que quand on va à travers le monde, on dit ce qui reste toujours en France dans la pratique médicale, c'est la clinique.
Oui, alors maintenant, nos jeunes internes, mais ça va changer avec les nouvelles générations, ont appris les examens complémentaires. On fait les examens complémentaires avant d'examiner son malade, de le regarder, de l'écouter et de le toucher et de le palper. On a tout au bout de nos doigts. On a tout au bout de notre oreille. On a un stéthoscope avec un crayon qui va écrire. Pas besoin d'attendre la prise de sang, de voir les gammes agitées, de voir tout ce qu'on peut voir. On ne voit pas la personnalité de la personne, on ne l'écoute pas. Il faut réhabiliter le toucher, l'examen clinique de base.
Et pour les infirmières, les autres soignants, les aides-soignants, ça c'est vrai qu'il y a peut-être beaucoup plus de contacts physiques, le temps est différent. Et vous le dites, vous le rappeliez tout à l'heure, mais j'aimerais bien qu'on y revienne, on peut très bien piquer, piquer et caresser.
On peut très bien piquer, c'est-à-dire prendre du sang, faire une prise de sang, et au lieu de tapoter fermement l'avant-bras pour faire sortir une veine, eh bien la caresser. La veine, elle va sortir de la même
façon. Ça a le même effet.
Ça a exactement le même effet, sauf que ça a un effet supérieur. C'est que là, on est en confiance avec l'infirmière qui va venir vous piquer.
On desserre les dents.
On desserre les dents, les mains, le poing, et on se laisse faire.
Alors, assumer le contact, certains pourraient vous opposer un argument. Encore faut-il en avoir le temps. Et là, ce n'est pas vraiment une invention. Parce qu'avec la charge de travail des médecins, bien sûr, mais peut-être aussi surtout des infirmières, des aides-soignants, des internes, l'urgence dans le soin, ça ne plaide pas à première vue en faveur de la caresse.
Il y a une temporalité, bien entendu. Il y a l'urgence vitale, hein, où là, évidemment, quand il faut intuber, on intube.
Mais je ne pense pas qu'à cette urgence vitale, je pense même aux cadences infernales.
Ah, les cadences sont...
15 patients à voir dans l'heure.
Elle reste infernale pour moi aussi, qui suis toute seule pour les mille lits, mais je ne perds jamais de temps en prenant mon temps. S'asseoir à côté du lit pour faire une prise de sang, comme je viens de l'indiquer, au lieu de se bagarrer, de se mettre à 6 pour piquer la dame qui ne veut pas parce qu'elle est démente, parce qu'elle ne comprend pas où elle est, eh bien, vous fait gagner énormément de temps. C'est ça que je souhaite enseigner.
Ce que vous me dites, ça rappelle un peu quand on est avec des enfants. Hein. C'est pas la peine, quand on va trop vite, on finit par perdre un temps fou.
Absolument. Distraire l'attention. On a des tas de petites techniques qui nous permettent d'être moins violents. C'est une grande violence quand même. Hein. Même si on sait qu'on est à l'hôpital, nos personnes âgées qui souffrent d'Alzheimer ne savent pas qu'elles sont à l'hôpital. Elles sont dans un univers qu'elle présente comme hostile. Donc, les raccrocher au monde avec cette caresse me paraît essentiel.
Docteur Véronique Lefebvre-Desnouettes, prendre soin dans un autre contexte. On part maintenant pour le Niger.
RFI à Niamey, 96.2 FM.
Docteur Abdoulkader Andia, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes interniste gériatre au service de médecine interne à l'hôpital général de référence de Niamey. Tout à l'heure, notre invité nous disait qu'il y avait une forme de tabou en médecine par rapport à ce geste très spécial, hein, la caresse. Est-ce que vous aussi, vous avez le sentiment que c'est la même chose chez vous, dans votre hôpital général de Niamey?
Alors, tout d'abord, bonjour et merci de m'avoir invité pour en parler, justement, sur votre... chaîne RFI. Alors, concernant la caresse, c'est vrai que ce n'est pas un geste qu'on fait spontanément, mais plutôt lors de l'examen clinique en médecine, lors de la phase clinique, il y a le toucher. Donc, le toucher suppose un contact physique avec le patient. Mais plus particulièrement chez le sujet âgé, chez le patient âgé, qui sont fragiles, c'est un geste qui nous permet d'être en contact, d'être en communication beaucoup plus étroite avec le patient. Et donc, ça peut vraiment aider et on le fait souvent, mais pas spontanément.
Dans la culture du Niger, est-ce que les personnes âgées, dans la vie de tous les jours, quand elles ne sont pas dans un cadre hospitalier, acceptent ce contact physique? Je pense bien sûr en dehors des enfants, mais avec les autres adultes, où ça ne se fait pas vraiment?
Bien sûr que les personnes âgées acceptent. Tout dépend de la manière. Il faut pas les brusquer, il faut les mettre dans un environnement calme, les regarder dans les yeux avec un regard doux, un regard qui veut dire que nous sommes avec vous et on est là pour vous. Et en ce moment-là, le geste, les petites caresses, les rassurent et ça nous permet de communiquer avec eux sans problème.
Dans certains contextes, on observe une certaine distance entre les patients et les médecins. Je pense dans certains hôpitaux africains où il y a une sorte de réserve. Est-ce que c'est le cas quand on est aussi en gériatrie ou est-ce que votre spécialité, docteur, ça impose en fait, de par les maladies des patients, de vos résidents, de ces personnes âgées, finalement d'être plus proche, comme le serait par exemple un pédiatre avec des petits-enfants?
Bien sûr, vous avez tout à fait raison que très souvent, il y a une distance entre les praticiens, les médecins et le patient. Et la gériatrie, une spécialité, on va dire, qui est pratiquement nouvelle dans notre contexte. Et du coup, les gens ne sont pas, les praticiens, les agents de santé ne sont pas, ils ne sont pas
familiarisés. Oui, familiarisés.
Familiarisés justement avec la personne âgée. Elle a tendance à être prise en charge comme l'adulte. Et donc, du coup, quand on n'a pas des prérequis, ce n'est pas évident de savoir être en contact, de savoir comment communiquer, comment examiner et comment surtout les rassurer. Et c'est... donc, du coup, c'est difficile. De faire ce geste avec eux de prime abord, c'est difficile de savoir que ça peut les rassurer. Mais de plus en plus quand même, comme la gériatrie existe, et il y en a beaucoup d'étudiants qui sont en formation, et nous-mêmes, on essaye de passer l'information. C'est un geste qui rassure, et de plus en plus on le fait. Quand on le fait, le patient n'a pas de réprimande, il ne le voit pas autrement.
Alors cette transmission très importante, est-ce qu'il y a aussi certaines distances avec certains patients, on va dire en fonction de leur statut social, si ça a été un chef, si ça a été un notable, est-ce que c'est plus difficile de le ou de la toucher?
Non, c'est pas vraiment difficile. Quand on est praticien, quand on est médecin, c'est pas difficile. L'environnement, le respect de cette personne qui... peut-être qu'elle s'ouvre, parce que quand le patient vient, c'est qu'il y a toujours un problème et il est en quête de solution. Et donc, le tact, la manière avec laquelle vous l'abordez, vous la rassurez, vous permet de faire tous les gestes que vous voulez en tant que praticien. Donc, il n'y a pas de tabou. Peut-être que ce qu'on peut parfois voir, c'est quand il y a, si c'est des jeunes praticiens, avec des chefs ou bien des notables, quand le contact n'a pas été bon au tout début, on peut remarquer qu'ils sont réticents, ils ne communiquent pas, et donc ça peut créer un mur, une barrière, ou parfois ils refusent. Mais en général, lorsqu'on sait s'y prendre, surtout avec les personnes âgées qui demandent que qu'on les écoute, qu'on les touche, qu'on les examine pour savoir ce qu'elles ont, et enfin trouver une solution. Donc voilà, il n'y a pas trop de soucis là-dessus.
Justement, ce rapport au corps, au toucher, on parlait tout à l'heure de la notion d'apaisement avec le docteur Lefèvre Desnouettes qui est très attentive à cet échange. Est-ce que vos résidents âgés, vos patients vous disent « ça m'a fait du bien ce contact, je me suis finalement sentie mieux après » ou alors peut-être même « j'ai mieux dormi » ?
Alors, le contact, le toucher, la caresse, spontanément, non. Vous savez, on est dans un contexte socio-culturel où les personnes âgées parlent très peu. Il faut parfois deviner à travers le geste, à travers le comportement qui en dit plus long que ce qu'ils disent. Mm. Donc, très souvent, c'est difficile. Ils n'expliquent pas ouvertement. Mm. Mais nous, on le sait si on arrive à trouver, avoir les informations qu'on veut. Et très souvent, le lendemain ou le soir, en passant, ils vous disent où est le médecin, où était le médecin qui m'a examiné ce matin, où est-il. Donc, on comprend leur satisfaction ou bien leur demande, leur besoin de les réexaminer ou bien la présence de ce praticien-là qui a passé du temps, qui les a touchés, qui a essayé de les comprendre, de communiquer, on va dire, au plus profond d'eux pour essayer d'avoir les informations. Mais dire particulièrement de la caresse, non.
Ouais. On comprend bien, ils disent où est le bon médecin en fait, hein?
Où est le gentil?
C'était très intéressant. Merci infiniment, docteur Abdoulkader Andia. Bonne journée à vous au Niger, à Niamey. On vous retrouve en studio, docteur Véronique Lefèvre-Desnouettes. Je disais très attentive, dernière partie de cet échange. On voit bien que les perceptions ne sont pas vraiment différentes. Il peut y avoir des modes d'expression différents. Mais en tout cas, tout le monde a besoin d'être caressé, on va dire.
Ah, mais c'est une loi universelle, bien sûr. Et surtout, quand on est très vulnérable, qu'on n'a pas accès au langage, quand on est tout petit ou quand on est très âgé, eh bien, ça vient aider à entrer en communication. Vraiment, il faut être, il l'a bien dit mon collègue, il faut être touché pour toucher. Et on est touché par ces personnes en grande vulnérabilité. Et moi, j'apprends à mes jeunes médecins à se réchauffer les mains avant de les poser sur un ventre douloureux, tendu par...
On frotte, hein, on l'entend au micro.
Voilà.
On frotte les mains, ça réchauffe.
Ça réchauffe. Mais ça, ce sont des petits gestes extraordinairement faciles à faire et à enseigner et qu'on n'enseigne plus.
Et qui ne prend pas de temps. Alors, il y a l'esprit, le toucher, on a bien compris la connexion entre les deux. Il y a les mots aussi. Tout à l'heure, on parlait de la caresse à l'animal. Aller dans le sens du poil, flatter. D'ailleurs, dans la francophonie, hein, il y a un lien entre les deux. Flatter, en québécois, c'est caresser.
Ah oui, étonnant.
Vous ne le saviez pas?
Non, pas du tout. Ouais.
C'est flatter, c'est caresser, donc on voit. Donc ça veut dire qu'aussi on peut flatter par le verbe, par le compliment.
Oui, oui, hein? Bien sûr, il y a des voix qui vous caressent, il y a des compliments qui vous caressent, il y a l'être à l'autre. Eh bien, aujourd'hui, vous êtes bien jolie. Comment ça se fait? Est-ce que vous attendez quelqu'un? S'intéresser à l'autre dans tout ce qu'il a de différent, de singulier avec moi. Et... remarquer que aujourd'hui c'est un jour plus agréable, aujourd'hui un jour plus pénible, etc. Et qu'on est là, on est à deux. Vous savez, Bachelard disait quelque chose qui est très beau, le moi s'éveille par la grâce du toi. Eh bien, entre le moi et le toi, il y a la main. Il y a la main que nous partageons.
Il y a la main, et dans votre livre, je suis en train de rechercher la page au moment même où je parle, il y a un petit dessin qui m'a fait un petit peu froid dans le dos.
Ah oui,
alors c'est anecdotique, mais vous citez dans le livre l'innovation, on va dire pour le meilleur, et là c'est pour, on peut le dire, c'est pour le pire, les limites de l'innovation, la caresse d'un robot. Où est-on allé chercher ça? Est-ce que vous pouvez nous expliquer, s'il vous plaît?
Oui, alors ça m'a fait horreur, c'est pour ça que je l'ai mis.
Ah là, je suis tombée dessus. Donc on voit une personne allongée sur son lit avec le bras pris dans une sorte de dattelle mécanique qui est censée l'apaiser, c'est ça?
Oui, c'est ça. Il y a un double dispositif. Donc à la fois la fausse main mécanique, mais qui n'a même pas une force de... On dirait un fer à repasser. Hein, et elle entend une voix de robot qui lui dit « ça va aller, ça va aller ». Elle est en fin de vie, faute de temps. Ça vient du Japon ou des États-Unis. On a privilégié le robot. Mais vous savez, c'est très culturel, le robot. Nous, ce n'est pas du tout dans notre société, dans notre culture. Mais au Japon, ça ne leur paraît pas énorme. Bon, ils ont le droit à 10 minutes de robot en fin de vie. Le robot qui va vous dire « ça va aller, ça va aller ». Moi, ça n'irait pas du tout,
non,
hein,
ça
si j'avais
ça.
Non.
Vous me dites ça, ça me donne des frissons, mais d'horreur. Quoi. C'est la caresse empathique, à l'inverse. Hein.
Alors,
réhumaniser les soins, même s'il y a la crise dans le système hospitalier. Comment est-ce que c'est perçu, votre message de cette caresse empathique? Parce qu'on dit qu'il faut, faut aller au rationnel quand même, il faut donner du soin à tout le monde, de la santé à tout le monde. On vous dit quoi? Est-ce qu'on vous dit que vous êtes à contre-courant ou c'est plutôt l'inverse?
Oui, ce on sera me dit que je suis à contre-courant, mais moi je suis très contente d'être à contre-courant et justement de promouvoir l'humain dans les soins qui passe par cette caresse, mais une caresse empathique, c'est-à-dire la capacité de nous se décentrer de soi, de ses protocoles, de ses procédures pour aller vers l'autre et l'apaiser.
Du regard à la clinique, à la caresse empathique, des approches, on a bien compris, elles s'additionnent, elles ne se soustraient pas. Merci beaucoup,
merci
docteur Véronique Lefebvre-Desnouettes. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et à bientôt, j'espère, dans notre émission. Et je rappelle une dernière fois le titre de ce livre dont la lecture apaise aussi, La force de la caresse, prendre soin des plus fragiles avec le cœur. Il est publié aux éditions du Rocher. Et encore de la douceur avant de parler sport dans Priorité Santé avec Gaëlle Faye.
Un jour viendra le corps tassé, les parchemins sur nos visages, ceux qui racontent la vie passée, tous les succès et les naufrages, et nos mains qui tremblent au vent. Comme des biggins au pas léger, continueront de battre le temps sous des soleils endimanchés. Un jour viendra en fravieux eau, des bégonias sur le balcon, un petit air de calypso, photo sépia dans le salon. Malgré la vie, le temps passé, malgré la jeunesse fatiguée, personne ne pourra empêcher nos corps usés de chalouper. Chalouper, 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 chalouper. Avant que le printemps se fasse automne, que l'on s'éloigne de la rive, on scratchera du gramophone quelques ritournelles caraïbes. On s'épuisera sur le dance floor en de petits pas économes, tant que sera levé le store, nos palpitants seront métronomes. Elles me reviennent les années folles, quand on mourait seulement de rire. Oh, rappelle-toi du Malécone, le clapotis de nos souvenirs. Un jour viendra cette ritournelle, quand ma voix se sera envolée. Je te supplie en souvenir d'elle, de continuer à chalouper.
Chalouper, chalouper. parle activité physique et santé tout de suite dans notre émission. Et c'est bien sûr en votre compagnie, docteur Jean-Marc Sen, bonjour.
Bonjour Caroline.
Docteur Sen, médecin du sport. Alors prendre la décision de faire du sport chaque jour, c'est déjà un grand pas. Mais parfois, nos auditrices, nos auditeurs nous disent pas facile de trouver le temps pour mettre en pratique cette bonne résolution. Docteur Sen, qu'est-ce que vous pouvez leur proposer comme conseil?
Eh oui, le travail, la famille, les enfants, les sorties entre amis ou encore les voyages, tout ça sont des contraintes de temps qui arrivent et qui remplissent évidemment l'emploi du temps au quotidien. Alors, si le temps est précieux, il est important évidemment d'optimiser à chaque fois que c'est possible. Alors, évidemment, le poste du travail doit être travaillé. Pendant la pause déjeuner, est-ce qu'on peut prendre un petit peu de temps? Il faut se poser la question d'horaire aménagé également. On peut discuter de travailler un petit peu plus chaque jour, 3 heures, et puis se libérer une après-midi. Bon, évidemment, il faut en discuter avec son employeur.
Oui, ça vaut mieux.
Tout cela,
si la moitié de mon équipe s'en va au milieu de la journée, je vais faire la grimace.
Je donne quelques bonnes idées.
Quel bon conseil, oui.
Et puis, à côté de ça, il y a des consommateurs de temps. Tout ce qui est sur Internet, la télévision, les jeux vidéo, eh bien, sont particulièrement gourmands en termes de temps. Eh bien, si ces activités mangent 30 minutes, est-ce qu'à la place de ces activités, on ne peut pas faire un peu d'activité physique? Ce sont des suggestions pour essayer de trouver un petit peu de temps et faire des exercices dans la vie quotidienne. Par exemple, le matin, on se réveille, 15 minutes de renforcement, abdos, pompes, gainage. Il suffit d'avoir juste un petit tapis de sol au pied de son lit.
Vous me faites rêver, réveiller avec des pompes, c'est vraiment...
Alors bien sûr, on oubliera l'ascenseur, on va emprunter les escaliers.
Ben oui.
Pourquoi pas aller au travail en vélo? C'est très sympa, aller au travail à vélo, à Paris, à vélo, c'est formidable. Et puis évidemment, on pourra gagner comme ça et du temps et faire de l'activité physique en faisant un peu plus dans la vie de tous les jours.
Alors on a toujours le regard sur la montre, sur le chrono. Certains sports prennent plus de temps que d'autres.
Et oui, tous les sports ne sont pas égaux en termes de consommation de temps. Donc, il vaut mieux éviter, par exemple, les sports qui nécessitent de se préparer, qui nécessitent beaucoup d'activités. Par exemple, le cyclisme, l'équitation, les activités en mer, il faut de l'équipement spécifique. Donc, c'est très chronophage. Par contre, il faut privilégier les infrastructures qui sont à proximité et où le temps de préparation est le plus faible. Par exemple, si on doit marcher, faire de la course à pied ou du yoga, ça se pratique à peu près n'importe où, ça nécessite peu de matériel. Si vous voulez courir, il suffit d'avoir une paire de baskets et en plus, vous pouvez choisir l'intensité de votre effort. Et ça aussi, c'est une recette puisque lorsque vous faites un entraînement fractionné à haute intensité, c'est-à-dire vous alternez des intensités, des courses rapides et des courses plutôt lentes, vous allez pouvoir plus vous dépenser et donc c'est une façon de réduire le temps d'exercice en ayant une bonne dépense énergétique. Bon, pour cela, attention, il faut avoir une bonne condition physique, avoir vu son médecin, éventuellement avoir fait un test d'effort pour être sûr de ne pas courir de risque. Et évidemment, si on souffre de maladies cardiaques, artérielles ou de maladies chroniques, il faut éviter de faire ce fameux entraînement fractionné.
Alors, on a bien compris, sport pratique, sport accessible, mais il faut quand même que le sport reste un plaisir, docteur.
Absolument. Le sport permet de réduire le stress, de diminuer la charge mentale du quotidien. Donc ça, c'est une chose qui est très positive. Mais il ne faut évidemment pas exagérer parce que sinon, il y a un risque de surcharge physique, même de démotivation. Alors, il faut que ce sport reste un équilibre de notre vie. Par exemple, si on sort après le boulot pour se défouler physiquement, ça, c'est une très bonne chose. Par contre, si on décide de faire un semi-marathon la veille d'une réunion importante, évidemment, ça risque de dégoûter de l'effort physique après avoir loupé cette réunion. Donc, il faut garder, bien sûr, de la place pour le plaisir dans la progression et le sport sera bientôt plus une contrainte pour notre emploi du temps.
On vous fait confiance là-dessus. Si vous le dites, on y croit. Merci beaucoup, docteur Jean-Marc Sen. Et à très bientôt dans Priorité Santé. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. C'est tout ça, maquillé au fil de la scène, Tiffany Menta. Demain, j'en suis sûre, vous serez là. Et d'ici là, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance qui a le bon profil pour vous accompagner dans les moments difficiles.